Frères et sœurs, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, dit saint Paul aux Romains. Il intercède pour nous par des gémissements inexprimables. L'ivraie qui est dans notre cœur, l'ivraie qui est dans l'Église, l'ivraie qui est dans le monde, peut être changée en bon grain. Le livre de la sagesse l'annonçait. Après la faute, tu accordes la conversion. Dieu est patient. Il sait que l'ennemi, c'est-à-dire le diable, Satan, le diviseur, sème la zizanie, autrement dit l'ivraie. Mais le Christ ne cesse de semer le bon grain de la grâce, à nous de l'accueillir. Cette semaine, nous avons appris une triste nouvelle. Non, ce n'est pas la défaite de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde de football, mais la nouvelle défaite des défenseurs de la vie dans notre pays. La veille de Notre-Dame du Mont-Carmel, le 15 juillet donc, une majorité de députés votait pour la loi légalisant l'euthanasie, c'est-à-dire le droit sous certaines conditions à des personnes de demander la mort et donc d'être tuées. Voilà bien une victoire du diviseur, du malin, de Satan. Introduire dans les esprits et maintenant dans la loi, instrument puissant, ce qui est digne de vivre et ce qui ne l'est pas, ce qui est digne d'être gardé et ce qui en est indigne. C'est la parabole de l'ivraie. Veux-tu que nous allions l'enlever ? Disent les serviteurs. Non, répond le maître. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Une personne seule ne peut pas discerner ce qui en elle est digne ou indigne de la maintenir en vie. Il faut un regard extérieur de l'entourage pour l'aider à vivre ce qui est beau et bon en elle. Des personnes compétentes et des personnes aimantes pour soulager ce qui est insupportable, pour accompagner ce qui n'est pas soulagé. Toujours sauver le bon grain en surveillant de près les plantes mauvaises. Romano Guardini, grand théologien qui a beaucoup influencé le pape Benoît XVI, disait dans son ouvrage « La fin des temps modernes » « L'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir. » Et le pape Léon XIV, qui cite justement Romano Guardini au numéro 93 de son encyclique, poursuit au numéro suivant le danger que l'humanité devienne victime de ses propres conquêtes avait déjà été clairement perçu par saint Paul VI lorsqu'il avertissait que les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elles ne s'accompagnent d'un authentique progrès social et moral, se retournent en définitive contre l'homme. Et le pape d'expliquer pourquoi le progrès technique doit être guidé par une conception chrétienne de l'homme, une morale chrétienne, une société chrétienne. Plus de moyens techniques ne garantit pas plus d'humanité. Lorsque l'efficacité devient la mesure de la valeur, dit-il, l'être humain est tenté de se considérer comme un projet à optimiser plutôt que comme une créature appelée à la relation et à la communion. Tout le chapitre 3 de l'encyclique serait à lire, ce serait trop long bien sûr ici, surtout quand le Saint-Père montre comment l'épreuve et la souffrance sont intégrées dans la vie humaine par l'amour et le désir. En somme, quand l'ivraie devient du bon grain, avec la force du Saint-Esprit qui intercède pour nous par des gémissements inexprimables. En 1997, il y a près de 30 ans, le docteur Daniel Once, médecin dans un centre de soins palliatifs belge, le foyer Saint-François, écrivait pour une revue théologique un article témoignage sur la maladie grave et la fin de vie. Face à la mort, en effet, se posent les questions fondamentales du sens de la vie, qui rappellent la valeur inaliénable de l'être et de l'être dans le Christ. Voici quelques extraits de ce texte poignant et lumineux, où l'on voit comment livrer du mal et de la souffrance peut devenir le grain du royaume de Dieu. Il est possible que les extraits, malheureusement, estompent un petit peu le caractère passionnant de cet article. La maladie grave entraîne pour la personne une série de pertes successives qui mettent en danger son équilibre. Ces pertes viennent d'abord de la maladie elle-même, des hospitalisations nécessaires, des traitements indispensables mais lourds, des récidives ou de l'absence de guérison. Très vite survient aussi la perte du rôle social. Avec l'aggravation de la maladie, apparaît la perte de l'image de soi, perte aussi de l'autonomie au niveau de la mobilité, de l'hygiène, de l'alimentation, des besoins les plus naturels. Toutes ces pertes provoquent chez le malade une perte de sa valeur propre et de ses repères. Elles sont ressenties comme une déchéance et sont vécues avec une angoisse énorme. Jusqu'où cela va-t-il aller ? Que va-t-il encore m'arriver qui va m'amoindrir ? Suis-je encore acceptable tel que je suis ? Tel que je suis devenu ? Puis-je encore être aimé ? Suite à ces pertes qui se multiplient, s'aggravent, le malade découvre la précarité de son existence, l'éventualité concrète de la mort. Le malade relit son passé, et n'y révèle et n'y relève que faute commise, interdit transgressé, souffrance provoquée, occasion ratée. Il s'enfonce dans une vision négative et dévalorisante de lui-même. À travers tout cela, le grand malade vit une terrible expérience de dépouillement. Il n'y a pas d'acceptation intellectuelle de la maladie et de la mort proche. Cette acceptation doit passer inéluctablement par l'expérience et l'acceptation du dépouillement. À la proximité de la mort, la philosophie palliative répond en termes de vie. Face à l'omniprésence de la maladie, elle s'intéresse à la personne. Dans le monde du silence et de la peur, elle restaure un droit de parole. Le patient, ainsi soulagé et écouté, retrouve parfois une énergie étonnante. Il se remet à vivre, réalise certains projets, réunit sa famille, met de l'ordre dans ses affaires. Vient un moment où nous réalisons qu'il faut tout abandonner, qu'il faut abandonner tout espoir d'amélioration ou simplement de stabilisation, qu'il faut arrêter tout effort en ce sens. Nous nous retrouvons les mains vides. À ce stade, nous entrons dans le domaine du savoir-être plutôt que du savoir-faire. À côté de lui, nous allons oser demeurer, être là, présent, sans rien faire, parfois sans rien dire, nous asseoir et entrer dans son silence et peut-être pleurer avec lui, reconnaître que c'est trop dur et qu'on ne trouve rien à dire, et puis écouter. Il ne s'agit pas de dire des mots, mais de s'impliquer personnellement dans une relation humaine dense et vraie. Tel que tu es, tel que tu es devenu, tu as de l'importance pour moi. Dans une relation inconditionnelle, pour que le malade sente et sache que, quoi qu'il vive, il ne sera ni rejeté, ni abandonné. Si le malade se sent accepté dans son présent, s'il sent notre foi en lui, si nous lui assurons notre confiance en sa capacité de sortir du tunnel, il pourra peut-être repartir dans la vie, fût-ce pour quelques jours ou quelques heures, c'est-à-dire grandir encore. C'est la dimension du consentement à ce qui lui advient. Voici la conclusion. La dimension spirituelle, c'est la recherche du sens. Très concrètement, nous ne pouvons pas échapper à la question. Quel est encore le sens de la vie de certains malades arrivés à un état de dépendance totale, parfois sans communication possible ? Nous sommes là, face à la limite, face au mystère. Pour moi, dit le docteur Daniel Ons, quoi qu'il soit devenu, le malade est et reste toujours un être humain à part entière. Il s'agit donc de le laisser être dans ce qui lui advient. Quand nous ne pouvons plus rien faire pour lui, il nous faut apprendre à être auprès de lui. Quel est encore le sens de sa vie ? Le seul fait d'être constitue une réponse. Et si je veux me laisser interpeller par l'Évangile, vous savez, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à lui justement, à cet être totalement dépouillé, que le Christ s'identifie. C'est en lui que le Christ situe sa grandeur et sa royauté. Accepter l'autre dans le mystère de son histoire, le reconnaître dans l'être, constitue pour lui une autorisation à vivre sa vie jusqu'au bout. Alors concrètement, frères et sœurs, que pouvons-nous faire pour participer à cette culture de vie et aider à vivre ce qu'on veut aider à mourir pour écarter les problèmes ? Eh bien, citons pour finir un très beau passage de l'encyclique de Léon XIV. La qualité d'une civilisation ne se mesure pas à la puissance de ses moyens, mais à l'attention qu'elle sait offrir, à sa capacité à reconnaître l'autre comme un visage et non comme une fonction. La capacité à prendre soin les uns des autres est une dimension importante de notre humanité. Cette capacité s'apprend et se perfectionne avec l'expérience. Lire des contes à un enfant. Tenir compagnie à une personne âgée. Rendre un espace accueillant. Sont des gestes qui se vivent dans un environnement familial, mais qui nous aident à apprendre et à intérioriser l'importance de la bienveillance au niveau social et nous entraînent à reconnaître l'autre comme une personne digne d'attention. Il y a la technologie aussi pour soutenir, bien sûr, les personnes, mais il ne faut pas que cette technologie prive de liberté ni de jugement. Enfin, bien sûr, et toujours, frères et sœurs, il nous faut prier, faire un peu pénitence, beaucoup invoquer l'Esprit Saint qui intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et puis redire sans cesse à notre bonne Mère du Ciel, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.